me the idea and bullying me, forcing me, pressuring me in the most combative way to come and to speak on this subject.
Okay, donc intervenant remercie la rue Période non seulement d'avoir organisé l'événement, mais d'avoir fait pression sur lui, de l'avoir littéralement forcé à venir, d'avoir eu l'idée, d'avoir défini l'idée autour de cette présentation.
And I also want to quickly announce that people are very interested in the questions about Venezuela. There's an all-day Venezuela workshop tomorrow that I will be speaking. I'll be speaking at 9:30 in the morning. And it's a conversation about identities in Venezuela at 9:30 at the SID and the Sciences Po.
Voilà, donc petite annonce également, demain toute la journée, en commençant par une intervention de George demain matin, il y a une journée d'études sur les identités au Venezuela, composition, décomposition et recomposition dans une perspective interdisciplinaire. C'est aux séries à Sciences Po, Rue Jacob, demain de 9h30 à 19h.
So today I'm going to talk about anarchism. What I want to say fundamentally on the most basic level is that anarchism has had a long and historical problem with both race and with religion. And I want to add to that the idea, the argument, that these two difficulties, these two blind spots in anarchism reflect a colonial blind spot, a colonial problem that anarchism has, that therefore requires a process of decolonization.
Alors ce soir il va s'agir d'anarchisme, et les idées principales dans cette présentation vont porter sur le fait que l'anarchisme, selon George, a un problème depuis longtemps avec la question raciale et avec la question de la religion. Et pour George, ce sont des problèmes qui sont liés à un problème plus général encore de l'anarchisme, qu'on pourra appeler ce soir le problème colonial de l'anarchisme.
In terms of race, anarchism tends more often than not to situate race and the struggle against racial oppression as one of many oppressions, and tends to insist sort of uniformly to oppose all oppressions, to stand in opposition to all oppressions, not only class and gender, but also environmental degradation, cultural conformity, animal and child abuse, and this neglects and sets aside the structural and strategic importance of certain oppressions and the struggles against them. And equally often, this also is used in some ways in many anarchisms to actually conceal a fundamental class centrism, the fact that one of these elements is actually the central.
Voilà, donc dans ces perspectives anarchistes courantes, la race est généralement placée au sein d'une longue liste d'oppressions sur le même plan entre elles, et donc formule une espèce d'opposition formelle, vague à toutes les oppressions sans distinction, ce qui signifie du coup de placer la race dans une longue liste, non seulement avec la classe et le genre, mais aussi avec la dégradation de l'environnement, le conformisme culturel, la violence contre les animaux, contre les enfants, sans prendre en considération l'importance structurelle et stratégique qui peut être celle de la question raciale. Et très souvent, en fait, cette opposition formelle à toutes les oppressions sert en fait à dissimuler le fait que cette approche est centrée sur un seul élément de cette longue liste, le plus souvent la classe.
In terms of religion, anarchism often falls into sort of the worst tradition of what we could associate with dogmatic Marxism, and the sort of a position on religion that simply repeats the mantra of Marx, that religion is the opium of the people, while conveniently neglecting the fact that what Marx immediately adds to that is the fact that it's also the heart of a heartless world. In other words, even for Marx, religion is a very tense and dual phenomenon, and fundamentally, when we add to that Marx's observation that revolution is, of course, not the product of small numbers of enlightened, rational, atheistic vanguards, but instead a product of the popular activity of the masses, we can see that this Marxist recognition that this theory, that theory only becomes a material weapon when it is gripped by the masses.
Alors pour ce qui est de la religion, l'athéisme qui domine dans l'anarchisme est souvent le même que celui qu'on rencontre chez les marxistes les plus dogmatiques, c'est-à-dire ceux qui répètent à l'envi la formule de Marx que la religion est l'opium des peuples, en oubliant de manière très pratique pour eux ce que Marx dit juste après, c'est-à-dire que c'est également le cœur d'un monde sans cœur. Et alors cela nous indique que pour Marx, la religion est un phénomène au cœur duquel il y a une tension, il y a une dualité et qui disparaît dans cette approche. Et Le problème est encore plus clair si on se rappelle que, dans cette perspective marxiste, la transformation révolutionnaire n'est pas quelque chose qui procède des croyances d'une petite avant-garde éclairée, mais de l'activité des masses populaires. Et Marx insiste sur le fait que la pensée, la théorie, ne devient réellement une arme matérielle que lorsqu'elle elle a une prise sur l'activité des masses.
And the idea that this religious blind spot and this racial blind spot in anarchism are reflective of a deeper colonial blind spot, I believe, is clear once we understand the way in which both of these aspects were central not only to the consolidation of modern European colonial identity, but also those identities that stand and that stood opposed to. In other words, what was demonized in opposition to in the consolidation of modern European identity was precisely first Islam as a religion, and later the racialization of indigenous people and later Africans in the Americas especially. Fundamental to recognize here, however, is that these two aspects are actually not distinguishable, and that the process of ontological disqualification of human beings emerges first as a religious phenomenon. In the identification in the Americas of individuals and peoples that lack souls, and this is transmuted and transposed onto first indigenous people and then onto Africans in the invention and consolidation of the idea of race.
Alors, ces points aveugles, ces angles morts dans la perspective anarchiste, qui sont autour de la race d'une part et de la religion d'autre part, sont liés en fait et reflètent un problème plus général avec le colonialisme. Et on s'en rend compte si on constate la centralité de l'une et l'autre de ces questions raciales et questions religieuses, dans la construction du projet colonial moderne, puisque il s'agissait d'abord d'un combat colonial formulé en termes religieux, combat contre un monde musulman islamique, et ensuite en termes raciaux, dans le contexte des Amériques en particulier, et puis avec une formalisation ultérieure. Il faut bien voir que les deux sont, en fin de compte, inséparables. On ne peut pas distinguer la question religieuse et la question raciale dès lors qu'on les voit dans cette perspective-là. Il y a vraiment un enchaînement entre ce qu'on peut appeler la disqualification de populations d'abord sur une base religieuse et puis ensuite sur une base raciale concernant les indigènes, puis les Noirs. Donc la question est d'abord religieuse dans le sens où des peuples sont disqualifiés en tant qu'ils n'auraient pas d'âme, puis on passe à un registre racial et il y a véritablement un emboîtement entre les deux éléments dans cette histoire.
And on the flip side, we find not only is it the case that race and religion are used to demonize the enemy of European modernity, but also those elements, those self-affirmed elements of that modern European identity are themselves the opposites of these. In other words, modern secular rationality as the identifying characteristic of what it means to be European, and also whiteness not as another race among others, but as the sort of universal non-race that, by virtue of civilization and progress, possesses a sort of newly atheistic God's eye view, a zero point for surveying the rest of the world.
Voilà, ce lien entre la question raciale et la religion ne se constate pas uniquement sur le plan des opprimés, mais aussi de l'autodéfinition de la modernité coloniale qui se met en place en même temps, puisque c'est à la fois une définition de la modernité comme basée sur une rationalité qui a tendance à devenir profane, qui serait le propre des peuples les plus civilisés, et en même temps, un peuple dont la race ne serait pas juste une race parmi d'autres, mais devient conçu comme, en fait, un point d'origine au sens mathématique, un point non racialisé, depuis lequel les Européens modernes seraient en mesure de projeter un regard objectif, athée, mais en fait, finalement, prenant la place de Dieu, en quelque sorte, par cette démarche-là.
Now, contemporary anarchism rarely embraces colonialism or identifies as colonial, but the point is precisely that often, more often than not, it embraces those precise elements that are constitutive of that European modernity, which is always also a colonial modernity. And here the example I like to give is a book that you may or may not know, I don't know if it's been translated, called Black Flame, about the history of anarchism. And what this volume does is by a South African anarchist. What it does is to not only embrace elements that I would say are residually colonial or residually Eurocentric, like class centrism or like strict, sort of rigid Eurocentric atheism, but even even identifies, goes to great lengths to insist that anarchism is the product of and finds its origins in the Enlightenment, the European Enlightenment with a capital E.
Alors, certes, l'anarchisme va rarement aller jusqu'à soutenir ouvertement le colonialisme et à l'adopter, mais il faut bien reconnaître, aussi surprenant soit-il, que malgré tout, l'anarchisme incorpore souvent ces mêmes éléments qui étaient au cœur de la modernité européenne coloniale. Et on peut le constater, par exemple, avec un ouvrage récent, je ne pense pas qu'il ait été traduit en français, mais qui s'appelle Black Flames, un livre anarchiste sud-africain sur un peu l'histoire de l'anarchisme et qui adopte une conception de l'anarchisme qui n'est pas seulement porteuse de résidus de cet eurocentrisme sous la forme de ce centrement sur la question de classe ou sur le rejet de la religion, mais qui va même jusqu'à considérer que l'anarchisme ne peut qu'être considéré comme une émanation, un résultat, un produit des Lumières avec un grand L et de cette rationalité moderne des Lumières.
And this for me raises two kind of exasperating and exasperating questions. The first is it possible at all in any way to distinguish modernity, rationalism, and the European Enlightenment from colonialism? And my answer to that would be no. The second question is, what on earth then do we do with any anti-state, anti-authoritarian, or what we might call anarchist movements that existed, for example, prior to the sort of European Enlightenment, prior to that divine light cast by European philosophers?
Alors, tout ça est assez exaspérant et conduit à deux questions exaspérées et exaspérantes. D'une part, peut-on réellement distinguer cette modernité, cette rationalité moderne des Lumières européennes de son revers fondamentalement colonial? Et Georges répondra non à cette question. La deuxième question est alors, que faire de tous ces mouvements anti-étatiques, anti-autoritaires, ou qu'on peut même peut-être envisager d'appeler anarchistes, qui ont émergé avant cette phase de la modernité des Lumières, avant que les philosophes des Lumières ne daignent jeter leur lumière divine sur le monde.
And what I want to begin to argue today is that one of the ways of what I think is a productive way to get at and get beyond this tangle at the heart, this colonial tangle that most anarchism is bound into, is to begin with a fundamental reconsideration of what anarchy means. And here I take a cue from someone who is not an anarchist, but proposes a kind of anarchistic reading of liberation, and that is Enrique Bustos, an Argentine-Mexican philosopher of liberation. What he points out is that anarchy, etymologically speaking, for him means more, it's less to do with the state, strictly speaking, more to do with opposition and a transcendence to the governing order of affairs, transcending the fundamental order and principles of the present.
Alors, et pour George, une manière utile de sortir de cet anarchisme entremêlé fondamentalement avec le colonialisme passe par le fait de reconsidérer, de repartir de la question de qu'est-ce que anarchisme signifie, vraiment à partir de cette définition-là. Et pour ce faire, il propose d'emprunter une idée à un philosophe argentin-mexicain, Enrique Dussel, qui n'est pas anarchiste à proprement parler, qui ne se définit pas comme tel, mais qui propose pourtant une compréhension qu'on peut appeler anarchique ou anarchisante de la libération. Pour Dussel, donc, l'anarchie ne signifie pas nécessairement quelque chose qui se focalise de manière stricte sur l'État, mais plutôt la nécessité de dépasser, de transcender les principes qui structurent l'ordre des choses, l'ordre des affaires courantes, l'ordre établi.
And this redefinition, this reformulation of anarchism kind of from the bottom up forces us to grapple with, I think, one of the major dangers of anarchism, namely a formalism that plagues anarchism. This has to do with the question of race, which, if we don't believe in race, we can sort of in some ways act as though it doesn't exist. It has to do with religion, which, since it's not true, we don't grant any political content to, possibly. And it has to do fundamentally with the question of the state. While anarchists are occasionally and often the best diagnosticians of the dangers of the state and of institutionalization, I argue that there's a certain blindness to the content of those institutions. The formalistic tendency in all of these aspects blinds us to that content. What we need to focus on is the content as opposed to strictly the form. And I think that also reproduces the same historical problem that we saw with anarchism. Namely, if anarchism cannot exist in the Eurocentric formulation prior to the European Enlightenment, then you could say then anarchism could not exist if its opponent is the modern nation state, could not exist prior to the existence of that state either.
Alors, donc cette redéfinition, cette reformulation de l'anarchisme nous oblige à nous confronter à une tendance, à un formalisme qui contamine une grande partie de l'anarchisme. Formalisme qui est à la source de la critique de la question raciale qui se retrouve dans beaucoup d'idées anarchistes, c'est-à-dire critique qui repose sur l'idée de dire on ne croit pas que la race existe, voilà. Et formalisme qui se retrouve concernant la religion, l'idée que, voilà, encore une fois, tout ça n'a pas de sens, tout ça ne peut pas avoir de contenu politique pertinent, et qu'on retrouve également dans le rapport à l'État, dans beaucoup de courants anarchistes. Et même si il faut quand même reconnaître que les anarchistes peuvent être parfois parmi les meilleurs les plus à même de diagnostiquer les dangers de l'État, malgré tout, le formalisme qui domine dans l'anarchisme les aveugle bien souvent à cette question cruciale du contenu plutôt que de la forme de ces différentes entités. Et qui plus est, ça nous ramène au problème de, donc, comme on disait auparavant, si l'anarchisme ne saurait exister en amont, au préalable de cette phase de la modernité européenne et de l'État-nation, ça pose aussi le problème de savoir s'il peut exister lorsque son ennemi est justement un mouvement qui aurait pour ennemi cette idée des Lumières, la rationalité des Lumières, pourrait-il encore être considéré comme anarchiste si on se base sur cette perspective-là? Voilà, ça pose problème.
To put it differently, we oppose the state not because it bears the name state, but we oppose the state because of what it does. It upholds hierarchy, it upholds inequality, it upholds the rule of minorities and the rule of capital. Dussel's conceptual reconfiguration is loosening of this category on a fundamental level, therefore allows us to avoid fetishizing the state, either fetishizing affirmatively in those statists who celebrate the virtues of the state, or those anarchists who focus entirely on the anxiety that it produces, and we shift instead from the state strictly speaking to the status quo of one block industry.
Alors, pour dire les choses autrement, on ne s'oppose pas à l'État simplement parce qu'il s'appelle l'État, on ne s'oppose pas simplement à ce qui s'appelle explicitement comme tel, mais on s'y oppose à cause de ce qu'il fait, du fait qu'il maintient les inégalités, qu'il maintient la hiérarchie, qu'il maintient le gouvernement par une minorité, il maintient la domination du capital. Et donc, la reconfiguration conceptuelle qui est proposée par Dussel peut nous permettre de lutter contre ce formalisme et d'éviter une fétichisation de l'État, aussi bien de la part de ceux qui pourraient défendre l'État et célébrer ses avantages, que ceux qui, comme les anarchistes, vont avant tout s'y attaquer. Et avec cette reconfiguration conceptuelle, il s'agit en fin de compte d'opérer un déplacement et de passer de la question de l'État à la question du statu quo.
This shift in the conception of anarchy on the fundamental level is a powerful move, and I argue it's not in and of itself already a decolonial move, an anti-colonial move, but it is a precondition for any kind of anarchism that is going to escape this colonial blind spot, any anti-authoritarian, anti-state organizing will not fall prey to that very same danger. On a political level, it's also a fundamental precondition for what I consider to be an urgent political task, namely the unification of the best aspects of often European, North American anarchism with revolutionary liberation movements that have, on some level and to some critical degree, used the state in other parts of the Third World.
Alors, ce déplacement est très important et très puissant, et en même temps, ce n'est pas un déplacement qui est déjà, à proprement parler, décolonial, mais c'est une précondition, c'est une condition nécessaire à toute approche décoloniale, toute analyse décoloniale de l'anarchisme, et à toute tentative d'élaborer un anarchisme ou une tendance anti-étatique, anti-autoritaire, qui ne tombe pas dans le piège de cet anarchisme colonial, ou cet angle mort colonial de l'anarchisme. Et c'est aussi une condition nécessaire à des rapprochements qui sont vraiment très souhaitables entre des courants anarchistes européens et des luttes dans d'autres parties du monde, notamment dans le tiers-monde, luttes de libération qui, bien souvent, en fait, font usage de l'appareil d'État plutôt que de le critiquer de manière formelle.
In the broader work that I've done on the subject, what I try to do is to draw out both the power of this initial gesture, and also the subsequent decolonial gesture by drawing together two thinkers, conveniently Francophone thinkers, Georges Sorel and Frantz Fanon, as well as contemporary movement dynamics in Venezuela, anarchist movement dynamics, and movement dynamics that do not strictly go under the name anarchist.
Dans son travail en général, Georges essaie de montrer l'importance de ce déplacement proposé par Ducel et puis de l'étape suivante qui est vraiment l'analyse décoloniale à proprement parler, notamment en s'appuyant sur à la fois des théories et des pratiques qui sont anti-étatiques sans être nécessairement strictement anarchistes. D'abord la pensée de Georges Sorel et de Frantz Fanon, mais aussi une série de mouvements militants contemporains au Venezuela, un mouvement... je le répète, qui ne sont pas nécessairement anarchistes dans leur nom et dans leur autodéfinition, mais qui, malgré tout, ont cette dimension anti-étatique.
Sorel, who is a heavily maligned and even a forbidden figure in this land of yours, I believe, was someone who never really identified as an anarchist, but who nevertheless recognized the fundamental contribution of anarchists, who he saw as having injected into the syndicalist movement a radical opposition to, a hostility to, not only the state itself, but also politicians and political leadership. And it bears insisting that the fundamental distinction that drives George Sorel's class, sort of class struggle of syndicalism is a distinction between what he calls force and violence. And force is defined as that, that which upholds the state, and violence is defined as that which tears down the state.
Alors Sorel, il faut le dire, est une figure dont on dit beaucoup de mal ici, presque une figure interdite en France, et il ne s'est jamais réellement défini lui-même comme anarchiste, et il était capable de critiquer assez fortement les anarchistes de son temps, notamment leur individualisme, mais malgré tout, il était capable de voir aussi les contributions des anarchistes, notamment dans le mouvement syndical, et leur capacité à y instiller une hostilité assez profonde, non seulement à l'État, mais aux politiciens, aux dirigeants politiques, aux directions politiques de son temps. Et au cœur de la théorie de Sorel, on trouve une distinction fondatrice entre la force et la violence. La force définie comme ce qui maintient l'État, ce qui lui permet de se maintenir, alors que la violence est définie comme ce qui, au contraire, s'y attaque et vise à le détruire.
We cannot move, however, from Sorel to Fanon, strictly speaking, from class struggle syndicalism to national liberation revolutions, without breaking with this formalism that I argue binds much of anarchism, in part because Fanon himself is not strictly concerned with opposing the state, but instead with what he would understand to be the ontological apartheid of the world, the division between being and non-being that finds its best and most powerful expression in race.
Alors, par contre, c'est au moment du passage de Sorel à Fanon que vraiment on ne peut pas faire autrement que d'abandonner ce formalisme sur la question de l'État, puisque, en passant de la question du syndicalisme, de lutte des classes à la question de la libération raciale et nationale, on est obligé de sortir de cette question de l'État au sens strict. Fanon lui-même n'est pas directement en train de traiter la question de l'État au sens strict, mais il s'intéresse plutôt à la question d'un apartheid ontologique du monde, d'une division entre être et non-être, qui trouve son expression la plus parfaite dans la question raciale, dans la race.
And here, in the work of Fanon, to the categories of state and status quo, we also add the overlapping category of standing as a form of status rooted in sort of etymologically speaking, in where one approaches a struggle from, where one fights from one's starting position. And it is precisely this status and this standing that is lacked under racial colonization, in which the subjects, colonialized and racialized subjects, do not approach the other in the same sort of symmetrical way that we find in Hegel's master slave dialectic. In this sense, the stage for Fanon's decolonization of Hegel's master slave dialectic. To even exist for Fanon, to even begin to enter into a struggle for recognition on some kind of level of symmetry, requires a pre-dialectical struggle that Hegel does not recognize. And that is a struggle that shapes this ontological division of the world, this ontological hierarchy and status, and breaks down the barriers of ontological apartheid.
Alors ici, aux deux catégories de l'État et du statu quo, on va ajouter la catégorie qui superpose en partie l'une et l'autre de status, statut, qui est une notion qui s'enracine étymologiquement dans l'idée de la position sociale, de la posture de lutte aussi, d'une personne. Et alors ce status, ce statut qui manque en fait aux minorités racisées, c'est ce statut qui leur manque. Donc, et Fanon, dans son approche décoloniale de la dialectique du maître et de l'esclave de Hegel, dans Peau noire, masque blanc, montre que dans les conditions coloniales raciales, les deux côtés de la dialectique n'existent pas sur le même plan. Et pour accéder à cette existence dans la dialectique du maître et de l'esclave, il faut pour Fanon d'abord une lutte pré-dialectique que Hegel ne reconnaît pas et qui soit à même de d'ébranler et de rompre la séparation ontologique, la hiérarchie ontologique qui gouverne et qui ordonne le monde.
And if the early Fanon of the 1950s focused especially on the ontological vision of the hierarchy of the racist status quo, the later Fanon, the Fanon of Léon Leverrier, projected this opposition onto the global level of the colonial order. And here the tension becomes patent with anarchism, because it would seem that, strictly understood, you could not have any kind of unity between national liberation movements that are sympathetic to the seizure of the state, but also sympathetic to religion, that are also talk too much about race. You could not have that kind of unity outside the kind of dynamic that I call anarchist imperialism, by which movements in Europe and the United States especially insist on a certain sort of tactic that must be that must characterize revolutions everywhere in all times.
Alors si le premier Fanon ne s'intéresse pas exactement à l'État mais plutôt à la hiérarchie ontologique, à la division ontologique et à la hiérarchie dans le statu quo raciste, le second Fanon, celui des derniers de la Terre, projeter cette opposition à l'échelle globale, au niveau de l'ordre colonial global. Et là, la tension avec l'anarchisme devient complètement patente, parce que Fanon, en quelque sorte, parle trop de la question raciale, il est trop ouvert aux questions religieuses, en quelque sorte, et il parle même de saisir l'État, etc. Et à partir de là, on voit bien qu'il n'y a pas d'unité possible entre l'anarchisme et des mouvements de libération qui ont cette approche de la race, qui sont prêts à incorporer des éléments liés à la religion, etc. Et finalement, la seule unité possible qui pourrait être envisagée entre l'anarchisme et de tels mouvements de libération nationale reposerait en fait sur ce que George appelle l'impérialisme anarchiste, c'est-à-dire sur une imposition rigide de tactiques anarchistes qui devraient être acceptées par ces mouvements pour pouvoir entrer en coopération avec le mouvement anarchiste.
But such a view obscures what I see to be two fundamental elements of Fanon's later contribution in Wretched of Fear. The first is what I've been pointing out all along in some ways, the idea that what Fanon is struggling against is not strictly speaking the state, but it is hierarchical minority rule, and it is racialized division of the world, the ontological status of human inequality. And whether or not the state in a specific moment or in a specific place at a specific time assists in that struggle or opposes that struggle is really fundamentally the question. Secondly, however, it also facilitates a sort of smear in which all national liberation movements are presumed to be sort of unifying, singular, are presumed to be statist, are presumed to be, in short, reactionary. When in reality, when you look at Fanon's understanding of national liberation struggle with regard to the state, what you see is something much more radical. You see that the dynamic movement of and transformation of the state that borders on its sort of abolition. If we're opposed, I would argue, to inequality and hierarchy, and especially with the most brutal forms of inequality and hierarchy that are inscribed and etched into the skin and the geography of the world, then we are obligated to seek out this practical unity with the best elements of third world revolutionary struggle.
Alors, ce point de vue donc, l'impérialisme anarchiste dissimule, et peut-être même volontairement, deux éléments essentiels de la perspective révolutionnaire de Fanon. D'une part, le fait que, pour lui, le but fondamental n'est pas exactement la destruction de l'État, mais plutôt celle de l'inégalité, des hiérarchies, du gouvernement par une minorité, de la domination par une minorité. Et la question, à ce moment-là, devient plutôt, non pas de s'opposer à l'État en tant que tel, mais de savoir quel est le rôle de l'État. Est-ce qu'en tant qu'institution spécifique, il porte assistance ou au contraire, il fait obstacle à cette lutte ? Et d'autre part, il y a aussi un deuxième point qui est obscurci, qui consiste en fait à ne pas voir les mouvements de libération nationale autrement que comme monolithiques, totalement unifiés, sans pluralité, à l'intérieur de ces mouvements, tout à fait comment dire, inféodé à l'État. Et voilà, donc finalement, comme fondamentalement réactionnaire et de manière irrécupérable en quelque sorte, alors que l'analyse de Fanon sur ces questions-là est beaucoup plus nuancée et dynamique, radicalement dynamique. Et elle, certes, elle ne pose pas exactement la question en termes de destruction et d'abolition de l'État, mais malgré tout, elle pose celle de sa reconfiguration radicale. Et si on cherche réellement à s'opposer à l'inégalité et à la hiérarchie, y compris à ces inégalités particulièrement brutales qui sont celles qui s'inscrivent dans la peau et dans la géographie du monde, nous sommes obligés de chercher cette unité pratique avec les luttes du tiers-monde.
And finally, I wanted to turn briefly to contemporary Venezuela to identify, and there's a lot to say, of course, about what's going on in contemporary Venezuela, but I want to identify both the limitations of a certain kind of still colonial, still Eurocentric anarchism, the way it plays out in Venezuela, as well as the flip side of that, the potential, the radical potential for what I might call a decolonized anarchism, even if the movements that I'm describing often would not even embrace the name.
Alors, maintenant, pour terminer, on va passer au Venezuela d'aujourd'hui comme une sorte de prisme pour voir un peu les dangers d'un anarchisme colonial qui aurait donc ces points aveugles dont on a parlé, d'un anarchisme eurocentriste, et en même temps pour montrer tout le potentiel d'un anarchisme décolonial, décolonisé, tout son potentiel révolutionnaire, même ou peut-être même surtout dans les cas où ces mouvements ne se désignent pas sous le terme d'anarchisme avec un grand A.
Now, there are not many self-professed, self-identified anarchists in Venezuela. And here is another aspect that I'll leave aside, was the fact that self-identified anarchism in Latin America, across Latin America, is almost always the result and the product of European immigration. That's a historical dynamic and phenomenon. But more importantly, the fact that these self-identified anarchists in contemporary Venezuela are almost all opponents of Chavismo, opponents of the Bolivarian Revolution, in part because it stands, or it seems to stand, for everything that anarchist formalism that I've been diagnosing cannot tolerate. Namely, it's a process in which the state plays a major role, and it's a process led, on some level, for years at least, by someone wearing a uniform. But crucial to understanding this is that it's a misunderstanding of the Bolivarian Revolution in and of itself, in part because it stands for everything that anarchists, because it stands precisely for the dynamic of movements, the history of decades-long struggle to overturn these kinds of ingrained hierarchies that anarchism claims, at least on some level, to be against. But on top of that, it contains a crucial element, which is a radical base of what I would understand to be anti-state, anti-authoritarian movements that are flourishing and are indeed the foundation. Conseils communaux, mais aussi, au-delà de ça, la construction de réseaux d'autodéfense populaire et des expériences d'économie communale autogérée au cœur de certains des quartiers populaires les plus pauvres du Venezuela, les barrios. Et parmi toute cette effervescence, il y a même quelques petits groupes qui se désignent effectivement comme anarchistes pour avoir justement compris que l'anarchisme implique dans sa version décoloniale, ou même, on serait tenté de dire, tout anarchisme, en fin de compte, implique de prendre prise, de trouver une articulation avec les luttes des classes populaires du Venezuela, car c'est bien là ce qu'est un anarchisme décolonial ou un anarchisme tout court, c'est-à-dire, d'abord et avant tout, une lutte de masse contre un ordre du monde répressif. Recognized all these dangers, he knew they were coming, and he sought to fight against them. In some ways, I think one of the worst things that can be done is to abandon struggles to their worst elements. And I think, you know, here the question of God, of course, is a crucial one. And it is a fine line because we don't, of course, we're not dictating the way that a struggle should occur in Gaza, but at the same time, we do want to form alliances and press movements and strengthen movements that, you know, that push in certain directions. So this is, there's this kind of tense line that needs to be walked.
Alors, donc George est très content des questions, il va y répondre un petit peu ensemble en fin de compte. Il a particulièrement apprécié la première question sur la question de est-ce que ces alliances sont durables, sont soutenables. Et pour lui, la réponse ne peut être que très difficile d'une part et très contextuelle, il y a différentes situations. Et pour George, Fanon en fait est un très bon guide pour ça. Souvent, on le présente comme nationaliste, comme naïf vis-à-vis de la question de la montée du nationalisme. Mais si on lit Fanon, en réalité, on constate que c'est plutôt qu'il a été capable de reconnaître la montée de ces phénomènes, de les prendre au sérieux et de lutter contre leurs aspects problématiques. Et alors, l'idée derrière tout ça, c'est qu'il ne faut surtout pas se trouver en position d'abandonner les luttes aux pires éléments qui les animent. Alors, dans cette discussion, l'exemple de Gaza est effectivement particulièrement intéressant et important, dans la mesure où voilà, il pose ces questions-là, et toute la difficulté est, d'un côté, de ne surtout pas chercher à dicter des termes et des cadres pour cette mobilisation, et en même temps, il s'agit bien, malgré tout, d'intervenir, d'essayer de donner une forme, donner une orientation, de renforcer aussi ces luttes, et donc ça implique, malgré tout, de faire une intervention.
Okay, in terms of the question of the state and how the state operates, I think I certainly don't want it to seem as though I'm not wary of the state as a particular institution in our historical art, in the very historical context, because I am, and I think there are a couple of things to add on that, but I think there are some fundamental tensions that the state poses that we need to struggle with. And I tend toward agreeing, I think, that the state, that ultimately we're talking about abolition, that ultimately we're talking about abolishing these processes. But it's not, again, it's not simply the state, it's the process of institutionalization, the way that movements in enter into relations with states and what states often do. But, there are a couple of key things to add. One is that states are so different. They operate in such different ways on such different levels. The Venezuelan state is an incredibly particular state. Largely because of its oil history. And more fundamentally speaking, at least in the short term, what it means to use the state in the United States is completely different from what it means to use the state in Venezuela or Argentina or South Africa or somewhere else. And so I think we need to be very aware of the core periphery relations and what those imply with regard to the state.
Alors sur la question de l'État, d'abord, je ne voudrais surtout pas donner l'impression qu'il ne voit pas de problème, qu'il n'est pas préoccupé par la violence d'État, par le problème de l'État et par le fait de s'attaquer à l'État dans le contexte historique qui est le nôtre. Mais l'idée est plutôt de prendre au sérieux l'existence de tensions dans l'État sur lesquelles il s'agit d'avoir prise par notre lutte. Et bien sûr, en dernière analyse, on parle d'abolition de l'État, bien sûr, on prend au sérieux le problème de l'institutionnalisation des luttes qui peut être un mécanisme très puissant, mais il ne faut pas non plus occulter le fait que les États peuvent être très différents entre eux, que l'État du Venezuela en particulier est un cas assez, assez particulier, notamment du fait de l'histoire de l'industrie pétrolière dans le pays. Et plus fondamentalement, bien sûr, l'action de l'État des États-Unis n'est pas la même que l'action de l'État du Venezuela, d'Argentine, d'Afrique du Sud. Il faut rappeler quand même cet enjeu des rapports centre-périphérie qui ne peut pas être laissé de côté lorsqu'on parle de ces questions de l'État.
And I want to combine this idea, this question of what is anarchist about these movements or anti-state about these movements with responding to this question about whether or not what's going on in Venezuela is actually a counter revolution. And I don't think this is your position, but there's one other thing that we find in Venezuelan anarchist literature, especially, is this kind of a radicalization of the old critique of social democracy that basically says the more radical a government gets, the more perfect its oppression of the workers. And there are people who make that argument with a straight face in Venezuela, and I think it doesn't hold any water because it can't explain the dynamic of the movements in Venezuela. they can't explain the fact that the state and the leadership have more often than not been transformed, oppressed, and radicalized by these movements, have struggled to control these movements, yes, tried to control them, failed, and continue to struggle alongside and with them. And so it's not, it doesn't allow, I don't think, for the kind of idea that the state is the strongest arbiter in the case. At the same time, there are tensions and dynamics that point in that direction. There are things like financial capital. There are things like the global, you know, commodities trade, where China is buying steel from eastern Venezuela and wants the workers to be disciplined in a certain way for that, you know, for those exchanges to happen. So those are very real things. But I think the idea that there's an overarching counter-revolutionary tendency is paranoid, because I think it's all a balance of forces between the movements and inevitably corrupted and corrupting institutional elites. In terms of what's being built, precisely to counteract that is, you know, this question of what kind of movements have existed, and certainly the idea that there are millions of anti-state revolutionaries out there is not would not be accurate. But what you can say is that the sort of hegemonic, or not even hegemonic, but sort of the spearhead of most radical supporters of the Bolivarian process, those who, from even a military perspective, maintained the existence of the process by reversing the coup in 2002 in the streets with weapons, with arms, is a Marxist, Guevarist-inspired, but radically anti-state kind of movement. It's a movement that struggles for radical local autonomy, that struggles for local control, local popular self-defense, and that self-defense is used both against the opposition in the coup, but also against the government, in the sense that the Venezuelan government has to ask permission, in many cases, from these movements to use their territory to pass through them. And so you've got these radical development of these tendencies that are not, you know, not all of the movements. You have a large soft sector of Chavismo that is revolutionary, that is increasingly conscious, and that is crucial, but is not, you know, but these are not necessarily the vast majority. But what you have is the increasingly in the past couple of years, the institutionalization of space, a new space for these movements to occupy, and that's the space of the communes. And I think that the future balance that needs to be gauged and measured is the balance between the communes and the state, and the degree to which the communes will be able to operate as a counterweight to the state apparatus.
Okay. Alors, les deux questions. Qui vont être abordés maintenant sont liés. En fait, cette question de la contre-révolution et la question de qu'est-ce qu'on a vraiment à décrire et à observer ici intéressant en termes de mouvement anarchiste ou proto-anarchiste au Venezuela. Alors, sur la question de la contre-révolution, en fait, George y verrait en quelque sorte, en tout cas, il y a une certaine façon de formuler cette question, pas forcément donc la tienne, hein, mais qui consiste à dire, à radicaliser en quelque sorte la vieille critique de la social-démocratie qui consistait à dire que plus l'État fait des choses radicales, en quelque sorte, plus sa domination sur le peuple est parfaite. Et pour Georges, c'est une idée qui n'a absolument aucune validité, qui ne permet absolument pas de rendre compte de la dynamique des luttes, qui ne permet pas de rendre compte des phénomènes de radicalisation, des tentatives, des luttes pour le contrôle voilà, des différents mouvements qui sont animés au cœur de cette révolution bolivarienne. Et voilà, l'idée que l'État serait en permanence en position d'arbitrer tout cela et de dominer tout cela n'est pas juste. Il y a des tensions très importantes, bien sûr, dans le processus, il ne s'agirait pas non plus de le nier. Il y a la question du capital financier, il y a la question, par exemple, de l'influence potentielle de la Chine, qui maintenant est acheteuse de beaucoup d'acier produit au Venezuela et qui pourrait imposer des phénomènes de discipline sur les travailleurs. Mais l'idée que voilà, il y aurait une espèce d'instance dominant tout cela et fondamentalement contre-révolutionnaire ne paraît pas justifié. Il s'agit plutôt de juger les rapports de force au cœur et des tensions donc au cœur du processus. Et donc pour en venir justement à la question des mouvements anti-étatiques, anti-autoritaires au Venezuela, alors faut-il imaginer derrière cette présentation des millions de militants anti-État convaincus ? Bon, non. Mais malgré tout, il y a une espèce de fer de lance de la révolution bolivarienne en quelque sorte. même fer de lance, on pourrait dire, au sens strict presque, au sens militaire, dans le fait d'avoir utilisé des armes et d'avoir été capable d'empêcher le succès du coup d'État en 2002, qui est une espèce de courant marxiste, d'inspiration guévariste, mais en même temps fondamentalement anti-étatique, avec des expériences importantes et radicales d'autonomie locale, qui aboutissent à des situations de contrôle local très fortes par la population, et qui constituent des foyers de pouvoir à la fois contre l'opposition, dans le cas de 2002, mais aussi voilà, en lutte avec le gouvernement. Il y a des situations où les territoires contrôlés par ces mouvements ne sont pas accessibles au gouvernement à moins de leur demander la permission, quoi, littéralement. Alors, bien sûr, tout ça ne représente pas la totalité de la base sociale et politique de la révolution bolivarienne. Il y a tout un marais, on pourrait dire, de chavisme soft qui existe malgré tout, même s'il y a des phénomènes de conscientisation importants qui se déroulent dans ce cadre-là. Et pour George, parmi les développements les plus récents et les plus importants, les plus prometteurs de tout cela, c'est l'émergence d'un espace nouveau pour cette radicalité, qui est celui des communes. Et donc la question qui est donc centrale sur l'avenir de cette dite révolution bolivarienne, c'est justement sans doute celui des rapports de force entre les communes et l'État, de savoir dans quelle mesure les communes vont pouvoir arriver à constituer un contrepoids, un contre-pouvoir ou pas à cet État chaviste.
That was amazing.
Indirect connections between revolutionaries who have organized and continue to organize in Venezuela and who have been in contact with movements in Mexico, I think are fundamental and have been going on for a long time. Although I will say, I don't think it's a question of, to put it this way, one of the barriers to that relationship, I think, was the way that Zapatismo was projected internationally as a movement that didn't want power, as an anti-power movement by thinkers like John Holloway. And I think that prevented many Venezuelans from looking to the Zapatista experience. And I think at the same time, Venezuelans were developing their own histories and trajectories of popular autonomy that I think run in parallel, but are not necessarily influenced in a direct way by the Zapatista experience.
Okay. Pour George, il n'y a pas forcément beaucoup de connexions directes entre les Zapatistes et les courants radicaux de la révolution bolivarienne, mais pour ce qui est de l'existence de connexions indirectes entre révolutionnaires, etc., pour George, ce sont des liens fondamentaux, des liens qui sont assez anciens, en fait, mais pas forcément sous la forme de connexions immédiates entre structures militantes. Et l'un des obstacles à ça, en fait, probablement, a à voir avec la façon dont le zapatisme s'est projeté au niveau international comme un mouvement anti-pouvoir, comme l'idée de lutter sans prendre le pouvoir, la référence à Holloway, etc. Et probablement que ça a empêché beaucoup de Vénézuéliens dans le contexte de la révolution bolivarienne de se reconnaître dans le zapatisme, de vraiment tisser des liens. Et en quelque sorte, les expériences locales, le pouvoir local zapatiste, à bien des égards, ont pu suivre des voies parallèles, en fait, à ce qui se passe au Venezuela, mais sans forcément entrer en connexion directe.
On the question of religion, actually ties in very well with the decolonial question. The history of the way that religion has played a big role. The first thing to say is that if we're talking about anarchism and decolonization and secularism, there's a stunning trend of third world Marxists being more religious or more open to religion than so-called First World or Soviet Marxists. And I think there are structural reasons for that. In Latin America, the structural reasons have to do with the influence of the church, the influence of liberation theology, which is a major influence throughout the region. In Venezuela, the church itself is not as overbearing and powerful as in other countries, but in the 70s facilitated the development of local circles of popular participation, which were important predecessors to popular participation movements today. Alongside this, however, you have the development and deepening and increasing celebration of of popular, local, indigenous religious movements. The whole series of movements that mix and blend Catholicism with indigenous faiths, and especially one that people maybe have heard of, but it's very important in Venezuela, called the cult of María Llonza, which is a cult, she's a cult figure in the central west of Venezuela, who has a really surprising and amazing importance for a great deal of political thinkers. I'll go with the second part.
Thanks. María Llonza.
María Llonza.
Alors, les questions de la religion et la question des coloniales sont en fait très liées, c'est intéressant. Et alors, ce qu'il faut reconnaître dans cette problématique et qui est difficile à reconnaître pour beaucoup de mouvements anarchistes laïques, etc., et athées, c'est le fait qu'il y a une situation qu'on peut constater qui est qu'il y a une abondance de marxistes du tiers-monde qui donne une importance plus grande à la religion et qui doit avoir forcément des raisons structurelles à ça. En tout cas, c'est ce que propose George. Et en Amérique latine, il s'agit évidemment de l'importance de l'influence de la religion catholique, mais également de la théologie de la libération. Alors, dans le cas du Venezuela, sans doute que l'Église avait peut-être un peu moins d'importance omniprésente que dans d'autres parties de l'Amérique latine, mais malgré tout, elle a été le cadre du développement de cercles de participation populaire qu'on peut considérer comme des précurseurs des formes de participation populaire qui apparaissent aujourd'hui. Il y a également beaucoup de mouvements indigènes populaires qui ont une dimension religieuse très forte, à la croisée entre justement le catholicisme et les croyances indigènes. Et notamment, on peut donner l'exemple de la figure de María Llonza, qui est donc une figure très importante, à la fois religieuse, mais pour beaucoup d'enjeux politiques également, notamment dans le centre-ouest du Venezuela.
And this gives me a good opportunity to kind of explain a little bit and clarify the question of what Bolivar is, because it's not and never was strictly about Bolivar, firstly, and secondly, it was never strictly about Chavez. It predated Chavez and was always exceeded Bolivar. Certainly it was a rejection of the flat and simplistic Marxian critique of Bolivar and an attempt to rethink Bolivar in a radical way. But Bolivarianism emerges from the later stages of the Venezuelan guerrilla struggle when people are trying to figure out what went wrong and how to move forward. And so they're turning to all these local inspirations for political thinking or revolutionary thinking, local in the Latin American context, Mariátegui, other radical thinkers in Latin America, but local also in Venezuela, including Bolivar, including María Llonza, the two well-known guerrillas from the 1970s went to visit the shrine, which is in this big mountain, for María Llonza in the 1980s, which is kind of an indication that they dropped a lot of their sort of Marxian secularism. And they're really attempting to rethink what this all means. And for me, Bolivarianism really is while there's a heavy weight of the figure of Bolivar, which can become too conservative in some ways, it also is a kind of umbrella term that encompasses all of these struggles for the development of a local revolutionary Marxism.
Pour poursuivre sur cette question, il faut aborder la question de ce que c'est que le bolivarien, ce qu'il y a de bolivarien dans la révolution bolivarienne, et il faut clarifier tout de suite le fait que ça n'a pas forcément directement à voir avec Bolivar et que ce n'est pas non plus quelque chose qu'on peut réduire à la figure de Chavez, comme c'est trop souvent fait. C'est un phénomène qui précède Chavez et qui déborde largement les enjeux de la figure de Bolivar au sens strict. C'est un mouvement dont on peut trouver les origines dans une sorte de rejet de la critique marxiste un peu plate et formelle de Bolivar, pour essayer de repenser les apports éventuels qui pourraient être sauvés. C'est un phénomène qui apparaît un peu dans la phase descendante de la lutte armée au Venezuela, où les cadres se demandent ce qui n'a pas marché, qu'est-ce qui a fait que ça a été finalement un échec, et qui cherchent de nouvelles sources à leur lutte, notamment en Amérique latine, avec Mariátegui par exemple, mais même proprement au Venezuela, avec Bolivar, avec María Llonza. Un exemple assez notable est qu'il y a deux figures importantes de la lutte armée qui, dans les années 80, sont allées littéralement en pèlerinage au sanctuaire de María Llonza, et pour manifester ouvertement le fait qu'ils laissaient de côté, en quelque sorte, leur approche profane et laïque qui était la leur auparavant. Et donc, dans cette révolution bolivarienne, la figure de Bolivar, d'un côté, peut peser lourd parfois, et peser du côté conservateur à assurément, mais ne doit pas occulter le fait qu'il y a malgré tout quelque chose de beaucoup plus large qui se passe avec cette réinvention de Bolivar, et qui est l'un des outils du développement de, voilà, d'un marxisme révolutionnaire local, quoi. Enfin, de la variante locale, disons, d'un nouveau marxisme révolutionnaire.
Firstly, if I understand the question about the actual concrete role of the communes against the state, and if I understand the question, was the question that is it that they themselves form a kind of institutional opposition to the state, or do they operate largely through consciousness? That was the question, right?
Well, the question is actually concerning the nature of the relation. Is it like basically are they more or less institutionalized, or do they have a potential for? I mean, do they carry a potential for a more or less antagonistic confrontation with the state?
Yes. So the communes as they exist are wide and varied, massive and varied, and some are incredible and some are less impressive, and it's a process that's very much in development. And I'd say, to touch on the question of consciousness, though, I think part of the reason that a lot of us have faith in council structures is because participation in council structures does transform people, does make them, you know, into new human beings, into revolutionary human beings. And I actually think the two are very bound up to each other in the sense that communal power will not expand if people do not transform in terms of participation. The way that the communes, the best of the communes, directly antagonize the state, and in particular the economic, the relationship between certain economic interests in the state, is by taking over production, is by taking over especially local rural production, by directly incorporating into communal control, which means that there'll be a number of councils that participate in a confederative way in a commune, and they directly manage the economic production in a zone. And there are some that produce corn heavily. One state nationalized beer factory from Brazil was taken over and was just handed over to a commune, so the commune will actually directly manage the functioning of that. So it's largely economic, it's also though political in providing a counterweight and a space for the most radical elements of Chavismo to participate. But, and I'm going to continue with the localism part.
Alors, c'est la première partie d'une réponse. Sur le rôle, sur les rapports entre les communes et l'État, donc il y a eu une discussion pour redéfinir clairement la question, mais finalement cette question de, voilà, est-ce que ce sont des processus finalement institutionnalisés ou avec un potentiel pour un antagonisme direct avec l'État. Je commence par insister sur la diversité du phénomène, sur le fait qu'il y a des expériences très encourageantes, d'autres moins importantes, et puis c'est un processus vraiment en cours, récent, etc. Et en même temps, insister sur le fait que s'il y a le moindre intérêt à trouver à ces structures-là, c'est effectivement dans la mesure où elles seraient susceptibles de produire une accumulation de pouvoir, de conscience, à produire des révolutionnaires. Hein. Et effectivement, ce processus des communes ne va pas s'étendre s'il ne parvient pas à produire ce type de résultat là où il existe. Et alors, parmi les meilleures expériences de ces communes, certaines, oui, peuvent entrer en antagonisme direct avec l'État, principalement par le moyen de prendre le contrôle de la production, essentiellement le contrôle de la production rurale locale, et en l'incorporant directement dans le contrôle de la commune. Alors, la structure, en général, est sous forme de conseils qui sont confédérés dans une commune et qui gèrent directement la production. Alors, souvent, c'est la production... dans un cas, c'est la production intense de maïs. Dans un autre cas, il y a une entreprise brésilienne de producteur de bière, une usine qui a été donnée au contrôle, le contrôle a été pris par la commune. Et voilà, il y a une certaine radicalité dans ces expériences-là de prise de contrôle de la production.
The predecessor institutions to the communal councils, was the spontaneous emergence of what were called barrio assemblies in late Bolivarian circles after Chavez came to power, with barrio assemblies in the late 80s, early 90s. And there was a critique of those assemblies at a certain point by revolutionary militants in the armed struggle, some very important militants who were involved in the coup of 1992 by Chavez, who said essentially the development of these horizontal institutions, the local institutions, is fundamental, but it's become a weakness because they remain dispersed and they need to unify. I think that critique applies today to these communal councils, which there are 40,000 communal councils in Venezuela, but they can't consolidate as a counterforce in this dispersed setting on a purely local level. They do, and to a surprisingly sort of unrecognized degree, govern locally a whole number of areas. But as a counterforce, they require a sort of higher level of integration, and that's actually precisely what the communes are trying to do. It's a sort of beginning of a confederated structure that can build, you know, according to the proponents, a different state alongside the existing state, at which point you enter into a situation of dual power between the two that would have to be resolved at some point.
Alors, à l'origine ou aux origines de ces expériences, on peut notamment remarquer le développement des assemblées de quartiers, de barrios, dans la fin des années 80 et des années 90. Et expériences qui ont été critiquées notamment par des révolutionnaires importants qui avaient notamment participé au coup d'État tenté par Chavez en 92 et qui critiquent qui avaient reconnu leur caractère fondamental mais en même temps constaté qu'ils avaient des faiblesses importantes, notamment dans leur dispersion et leur incapacité à produire une unité au bout du compte. Et c'est un problème, c'est une critique qu'on peut tout à fait adresser au Conseil des communes aujourd'hui. Il y en a plus de 40 000, mais dans une grande dispersion. Et à l'échelle locale, on peut affirmer que ce sont réellement ces conseils qui gouvernent, mais le fait de se constituer comme une force à l'encontre de la force de l'État, une force unifiée, ce n'est pas possible. Et les communes essaient de construire une structure confédérée, mais... Pour justement essayer de construire un autre État qui pourrait entrer dans une situation de double pouvoir, etc. Mais c'est encore quelque chose qui est en cours.
To the questions of, kind of the questions about anarchism, about oversimplifying anarchism, using certain labels, about imposing certain sort of categories on people, I think I largely agree, actually. I completely agree. I think this is not meant to be an attack on anarchism, it's actually meant to be a sort of comradely push upon a certain kind of anarchist. You know, someone who has been a cadre in an organization which has tapped anarchists, and this is, you know, always working constantly with anarchists. But I will say, and I agree that if we take the very simple understanding of anarchism and project it, this idea of no command, I might go for that, but as understood as a horizon for struggle, instead of being understood as a tactical recommendation in the present. Precisely because I think the requirements and the requisites of struggle are very complex and require that we do a whole bunch of things that maybe individuals won't come together and do. And I will add that I don't think, I'm not at all convinced by individualism as a method. I don't think the individual is an invention of modern Western philosophy. And whether we agree with it and value it or we don't is better. But I think that it's certainly not convincing to me as a basis for social change, as opposed to things like groups, families, classes, movements. And I think precisely the point is to think in between. It's to think between anarchism and communism, and actually to move beyond this distinction, because I think it's a fundamentally flawed distinction. And I think, as Etienne Balibar put it once, the most interesting part of Marxism and the most relevant is the idea of a state that can operate as a non-state.
Sur l'idée de ne pas imposer des catégories, de ne pas regrouper tout l'anarchisme dans un même sac, etc., je pense qu'il n'y a pas vraiment de désaccord là-dessus, qu'il ne voulait surtout pas que son intervention apparaisse comme une critique de l'anarchisme en général, mais plutôt comme une espèce de tentative de pousser en toute camaraderie, en toute solidarité, les anarchistes hors de certaines ornières. Il a appartenu à une organisation à la fois communiste et anarchiste, et c'est dans ce sens-là qu'il se situe. En même temps, sur l'idée de l'anarchisme comme reposant sur une idée simple de refus de tout commandement, etc., je verrais ça plutôt comme un horizon de la lutte que comme une exigence tactique pour le présent. L'idée de l'individualisme ne me convainc pas du tout. Pour lui, c'est du même ordre que la critique de la philosophie moderne occidentale. Ce n'est pas une base valide pour le changement radical de la société, le changement radical du cours. Au contraire, les groupes, les classes, les mouvements, etc., sont ces bases de la transformation radicale des choses. Et finalement, ce qui est le plus intéressant peut-être dans le marxisme, c'est cette idée de l'État qui peut fonctionner comme un non-État.
Merci à tous d'être venus.